Et merci Tiffaine, très bon après-midi à vous. Nous, on termine aujourd'hui notre série consacrée au peintre néerlandais Vincent van Gogh.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Elle fut très courte, la vie de Van Gogh, 37 années seulement, entre 1853 et 1890, dont les 10 dernières à ne faire quasiment que peindre, à chercher à atteindre une évasion par la couleur et par des scènes dont le rayonnement de plus en plus intense contrastait sans doute avec la difficulté à vivre du peintre lui-même, bien qu'il faille également relativiser la légende d'artiste maudit qu'il traîne avec lui. C'est ce que nous a expliqué lundi Pascal Bonafou au cours d'une émission que vous pouvez retrouver notamment sur notre application Radio France. Mardi, c'est une nouvelle entreprise de démystification à laquelle s'est livré mon invité Wouter van der Veen. Nous a en effet expliqué pourquoi, selon lui, Van Gogh et son frère avaient toujours eu en tête le marché de l'art et la valorisation de son œuvre. Enfin hier, c'est notamment de la supposée folie du peintre des tournesols, ainsi que de la façon dont Antonin Artaud en a fait un texte célèbre, Le suicidé de la société, dont il a été question avec en première partie Stéphane Guégan et en seconde Evelyne Grossman. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler religion et aussi influence picturale chez Van Gogh, nous sommes en duplex depuis Genève et nous le sommes avec vous. Yann Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, spécialiste de la peinture hollandaise, de Rembrandt, de Vermeer, mais aussi de Van Gogh, sur qui vous avez écrit un ouvrage très richement illustré, Van Gogh, ni Dieu ni Maître, publié en 2017 aux éditions Citadel et Masno. Car selon votre démonstration, Yann Blanc, Van Gogh, c'est celui qui n'accepte en effet ni de maître en peinture, ni de dogme religieux. On va le voir tout au long de cette émission. Mais d'abord, je voudrais vous demander pourquoi ces deux thèmes vous ont-ils paru essentiels pour le comprendre et pourquoi avez-vous voulu les mêler tous les deux ?
En fait, je les ai, pour ainsi dire, découverts au fur et à mesure de la découverte des sources et de l'étude des tableaux. C'est vrai que cette perspective, cette proposition peut apparaître un peu scandaleuse lorsque l'on connaît finalement la réputation de ce peintre, très souvent présenté comme un fou de Dieu, très souvent présenté comme un grand admirateur devant l'Éternel, si j'ose dire. Mais en réalité, lorsqu'on regarde attentivement les sources, lorsqu'on lit la correspondance de la première à la dernière lettre, lorsqu'on regarde les tableaux, on est finalement frappé par des contradictions. Lorsqu'on regarde les premières lettres, comme l'a dit Wouter van der Veen, on est frappé par la place centrale qu'occupe la lecture de la Bible, et pas seulement la lecture de la Bible, aussi d'autres textes spirituels. On est frappé par cette éducation religieuse, on est frappé par cette éducation familiale. On est aussi frappé très vite lorsque Van Gogh s'intéresse à la peinture par la place centrale qu'il accorde à l'étude des maîtres, dans une perspective assez classique finalement, d'imitation de ses maîtres et d'imitation de la nature à travers ses maîtres. Mais on constate aussi, et quasiment dans le même temps, dès les années 1880, d'une part, que le mot d'athéisme apparaît dans ses lettres. 1881, je crois que c'est la première fois qu'il explique que les pasteurs le considèrent comme un athée. Et donc il cherche à se défendre de cette accusation avant finalement de l'endosser. Et puis on voit aussi la façon dont il transforme l'imitation des maîtres en une sorte de dépassement. Alors on pourrait considérer que d'une certaine façon c'est une prolongation de la théorie de la mimésis, hein, l'idée selon laquelle il faut imiter pour dépasser dans un exercice d'émulation. Mais il y a aussi souvent la volonté de sa part de s'approprier les œuvres et donc d'une certaine manière de lutter contre les artistes qu'il se choisit à la fois comme des modèles mais aussi comme des ennemis, à l'instar de Delacroix, de Millet ou de Rembrandt.
Donc vous avez voulu un peu casser les dogmes. C'est vrai que toute la semaine, nos invités ont cassé un certain nombre de dogmes parce que, sans doute, il y a beaucoup de malentendus au sujet de Van Gogh. La gloire de Van Gogh, finalement, repose sur des présupposés qui sont très changeants, qui sont très flous.
Oui, alors, Le livre de Nathalie Hennick l'a bien montré, il y a une fabrication dès avant la mort de Van Gogh, notamment dans l'article de Gabriel Aurier que vous avez cité, dont vous avez parlé avec Marto van de Veen. Il y a déjà la fabrication d'une statue avant même sa mort, et cette statuification, évidemment, elle n'aide pas à comprendre l'artiste. Mon objet n'est évidemment pas de casser les dogmes pour les casser, mais d'essayer simplement de revenir aux sources et aux tableaux et de prendre au sérieux les contradictions qui innervent finalement son œuvre et qui les rendent, à mon sens, beaucoup plus intéressantes qu'une vision un peu monolithique d'un artiste qui serait un artiste purement révolté, fou, maudit ou fou de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors avant de revenir vraiment à votre thèse, peut-être qu'il faut dire un tout petit mot justement sur ces cultes différents qui ont été portés à Van Gogh et expliquer un petit peu d'où ils viennent et pourquoi ils ont tellement prospéré. Je pense par exemple au culte de l'individu qui se rapproche un peu de celui de l'artiste maudit. Pourquoi se fixe-t-il en particulier sur Van Gogh selon vous ?
Alors, je pense que Van Gogh a un peu, disons, cherché à la fois une forme de solitude et une forme de vie communautaire. C'est un peu paradoxal chez lui, c'est que d'une certaine façon, dès le départ, il a vécu, je dirais, non pas en autarcie, mais en tout cas avec une certaine forme d'isolement, qu'il assimile souvent à un isolement au sein d'une communauté. Il se sent isolé dans sa famille, il se sent isolé dans la communauté des artistes. Il tente à plusieurs reprises d'entrer dans une académie à Bruxelles, à Anvers, il fréquente Atelier Cormont à Paris, etc. Donc il essaie malgré tout de s'intégrer, il essaie de s'intégrer dans les communautés des impressionnistes à Paris. Mais finalement, on se rend compte qu'assez rapidement, il a du mal à penser une communauté qui dépasse quelques membres.
C'est un individualiste tout de même.
C'est un individualiste et en tout cas quelqu'un qui entretient avec la pratique artistique, et je dirais même avec la pratique littéraire. Il ne faut pas oublier que c'est un immense lecteur. Hein. C'est quelqu'un qui admire pratiquement autant la littérature que la peinture. Il le dit d'ailleurs dans plusieurs de ses lettres. Il se défend d'ailleurs de ne savoir que peindre. Il lit énormément. C'est quelqu'un qui conçoit, disons, le rapport à la pratique sur le mode d'un rapport vraiment personnel. C'est-à-dire que pour lui, la pratique artistique relève de quelque chose qui l'aide finalement d'abord à se situer dans le monde, à se situer notamment dans un monde, le monde paysan, le monde de la pauvreté, le monde des indigents auquel il n'appartient pas familialement mais auquel il tente de s'identifier assez tôt, et puis ensuite le monde artistique qu'il va rejeter en considérant que c'est un monde de la civilisation, c'est un terme qu'il utilise de façon péjorative, c'est un monde finalement de la corruption, un monde de la ville, ce qui explique pourquoi il va descendre vers le sud. On pense d'ailleurs qu'il ne pensait pas aller à Arles dans un premier temps mais plutôt à Marseille. On pourrait imaginer ce qu'aurait été sa carrière s'il était descendu à Marseille, ici peut-être même en Italie, car c'était une possibilité également. Et puis à Arles, vous le savez, il va à la fois vivre de façon cloîtrée, si j'ose dire. Il va d'ailleurs mythifier cette position en se présentant comme un bonze, comme un moine. Et en même temps, ce moine, il va vouloir constituer autour de lui une assemblée de frères. Et donc, il va, vous le savez, attirer à lui et Gauguin. Ça va pas très bien se passer. Et ça montre bien que finalement, ce rêve d'une forme de communauté se heurte chez lui, au fond, à un rapport vraiment personnel, extrêmement intime avec la peinture. Et donc, c'est cette contradiction que je trouve intéressante chez lui, de voir à la fois cet individu, un individu qui cherche constamment à s'entourer d'amis, de camarades, de copains, comme il le dit, avec lesquels il va pouvoir construire quelque chose. Malheureusement, ça n'a jamais véritablement réussi, sauf peut-être avec Signac à Paris, où il va travailler pendant plusieurs mois à Asnières, notamment en étudiant des motifs d'après nature.
Est-ce que vous diriez que la solitude, c'est un thème de la peinture de Van Gogh, Yann Blanc ?
Je ne sais pas, parce que en fait, c'est une fausse solitude en réalité, parce que dans sa peinture, il cherche à entrer en communication avec ses motifs. Très tôt, d'ailleurs, il va assimiler la nature qu'il a en face de lui à quelque chose qui lui parle. Alors, on n'est pas dans une perspective symboliste. Hein, ce n'est pas des vivants symboles qui lui parlent. Ça n'est pas non plus une perspective, je dirais, mystique. Je ne pense pas que c'est son objet. Mais simplement, il essaie de faire de cette nature un espace de dialogue, de réflexion et de projection. Il se projette. Hein, c'est quelqu'un qui s'identifie énormément. Lorsqu'il peint les paysans, lorsqu'il peint les mangeurs de pommes de terre, il s'identifie à ces figures. Il s'identifie même aux objets. Hein, aux pommes de terre elles-mêmes, hein. Comme il s'identifie d'ailleurs au tournesol, puisque, vous le savez, la série des tournesols tourne autour de l'idée qu'il s'agit d'un portrait collectif. Ces tournesols, c'est au fond la représentation d'une collectivité de peintres, d'artistes, dont il souhaite faire partie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il signe sur le vase.
Donc il y a toujours une âme humaine, en fait, dans les peintures, même celles qui n'ont pas de figure humaine en tant que telle. Mais dans les peintures de Van Gogh, il y a toujours ce sentiment de l'être humain qui est là.
Oui, il appelle cela faire figure. Il dit qu'un arbre peut faire figure, c'est-à-dire qu'il peut donner au peintre une figure, et le peintre doit lui donner une figure, doit montrer la vie. C'est cet élément de vie, plus que d'âme d'ailleurs, parce que cette notion d'âme, disons qu'elle est compliquée, parce qu'elle a une dimension transcendante, alors que lui, il s'intéresse vraiment à l'expérience de la matière, à l'expérience de la nature et à ce qui, dans la nature, rencontre une vie. Et cette vie, c'est une vie, j'irais au sens, si vous me permettez ce pléonasme, une vie organique, une vie qui ne cherche pas nécessairement une transcendance, mais une vie dans la matière. Lorsqu'il évoque dans La nuit étoilée le ciel, ce n'est pas un ciel mystique, ce n'est pas un ciel divin, il parle de carte. Il dit, les étoiles, c'est un peu comme les points noirs sur une carte. Et donc, peindre la nuit étoilée, c'est peindre la carte du ciel. Donc, il est dans une perspective presque astronomique, et pas astrologique. Il est vraiment dans une réflexion. La nature est un espace de vie où tout vit et où finalement le peintre en tant qu'être vivant doit au fond entrer en communication plus qu'en communion avec cette nature vivante.
Je ne sais moi-même comment je peins. Je viens m'asseoir avec un panneau blanc devant l'endroit qui me frappe. Je regarde ce que j'ai devant les yeux. Je me dis, ce panneau blanc doit devenir quelque chose. Je reviens mécontent. Je le mets de côté, et après m'être reposé, je le regarde avec une certaine angoisse. Je reste mécontent, parce que j'ai trop à l'esprit cette merveilleuse nature pour que je puisse en être content. Mais pourtant, je vois dans mon œuvre un écho de ce qui m'a frappé. Je vois que la nature m'a raconté quelque chose, m'a parlé, et que je l'ai noté en sténographie. Mon sténogramme, il peut y avoir des mots indéchiffrables, des fautes ou des lacunes. Pourtant, il reste quelque chose de ce que le bois, ou la plage, ou la figure ont dit. Et ce n'est pas une langue mate ou conventionnelle qui n'est pas née de la nature elle-même, mais d'une manière de faire ou d'un système savant.
Compagnie des œuvres sur France Culture et nous sommes en duplex avec vous, Yann Blanc, pour écouter cette lecture par Jean-Gabriel Norman d'une lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo. La nature m'a parlé, c'est un petit peu ce que vous disiez à l'instant en réalité que reprend ici Van Gogh dans cette lettre.
Oui. Mais il faut là aussi se défier, disons, de l'idée selon laquelle, au fond, Van Gogh viendrait devant la nature et attendrait que la nature lui parle, comme Moïse au sommet du mont Sinaï attendrait finalement que la présence divine se manifeste. Lorsqu'on regarde les textes, les très nombreux textes que Van Gogh a consacrés, pas simplement à ses relations sociales, à sa vie quotidienne, mais aussi à son travail, on constate que finalement il est très proche de la position des réalistes ou des naturalistes. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand lecteur de Balzac. C'est Balzac qui lui fait découvrir, disons, cette veine naturaliste ou réaliste.
De Dickens aussi, voire de George Eliot.
George Eliot, c'est un lecteur vorace de George Eliot, de Beecher Stowe, La case de Longtom, et de Zola. Alors Zola, c'est vraiment, à la fin de sa vie, c'est un des auteurs qu'il lit le plus souvent. Maupassant également, la préface de Pierre et Jean occupe une place importante pour lui, il va d'ailleurs la commenter dans une lettre. Et au fond, ce qu'il dit dans une des lettres, c'est qu'il faut voir la nature à travers son propre tempérament. C'est l'expression qu'il utilise, en paraphrasant Zola, c'est-à-dire que, au fond, la nature lui parle parce qu'il l'a fait parler. Et que si un autre artiste faisait parler la même nature, il lui ferait dire des choses différentes. Il s'en rend d'ailleurs compte lorsqu'il côtoie Gauguin, qui dans une de ses lettres, dit qu'il se pense comme un primitif, alors qu'il pense que Van Gogh est un romantique. Et je crois d'ailleurs que Van Gogh a partagé cette idée, puisque pour lui, le romantisme, il faut le prendre au sens littéral, c'est se faire des romans. C'est-à-dire qu'au fond, il regarde la nature à travers l'œil d'un romantique, qui est aussi un réaliste, donc il est ni l'un ni l'autre en réalité, mais il regarde dans cette nature ce qui va lui parler, ce qui va renvoyer à des récits qui sont les siens.
C'est le réalisme expressif.
Il y a une dimension de réalisme expressif, à défaut d'être expressionniste. Et c'est une nature qui va en quelque sorte entrer en écho avec sa propre culture visuelle, sa propre culture littéraire et sa propre culture religieuse.
Alors qu'est-ce qu'il fait dire à la nature? C'est une question difficile évidemment, mais est-ce qu'on peut tenter quand même avec vous d'y répondre, Yann Blanc?
Alors, je dirais que ce qu'il essaie d'abord de lui faire dire, c'est sans doute la chose la plus difficile pour un peintre, c'est la vérité. C'est une notion qui est absolument centrale dans son œuvre. Dès le départ, il veut viser le vrai. Et pour viser le vrai, et c'est en cela qu'il est réaliste, il n'a pas peur de ne pas repousser la laideur, comme il le dit dans une autre lettre à l'époque où il peint les mangeurs de pommes de terre. Il faut donc représenter ce qui se voit et ce qui s'expérimente empiriquement. Donc je dirais que ce qui l'intéresse d'abord, c'est d'essayer de voir ce qu'on ne voit plus, de voir ce que l'on ne voit qu'à travers des idéaux. Et donc il y a de ce point de vue chez lui une vraie fascination pour ces artistes comme Millet, même si Millet a aussi été critiqué pour être excessivement idéaliste, mais Millet, Delacroix, Rembrandt sont des artistes qui l'intéressent parce que au fond ils vont essayer dans leurs œuvres, malgré tout ce qu'une œuvre suppose d'idéalisation, de choix, de sélection, etc., ils vont essayer de rendre la réalité. C'est une expression qu'il utilise aussi dans ses lettres en néerlandais, hein, rendre la réalité, rendre ce qui est palpable finalement. C'est ce qu'il appelle pour Rembrandt la magie métaphysique. Alors c'est une expression qui peut être mal comprise parce qu'on pourrait avoir le sentiment que Rembrandt, bah, c'est quelqu'un qui prend le réel et qui l'idéalise, alors que c'est exactement le contraire chez lui. C'est-à-dire qu'au fond, la magie de Rembrandt, c'est d'arriver à représenter un ange, à représenter le Christ, mais à lui donner les traits de la réalité.
Les petites choses de la vie aussi, et presque les petites choses du quotidien, dans leur côté métaphysique, ou trouver du métaphysique dans tout ce que le quotidien peut avoir de banal.
Voilà, dans une autre lettre, il parle de sublime dans l'ordinaire. Donc, c'est pas le sublime des grandes montagnes et des orages, c'est pas le sublime des romantiques du début du XIXe siècle, c'est plutôt le sublime des petites choses. C'est le sublime d'un tournesol, qui est une fleur qui, par définition, est une fleur qui est un peu ingrate quand même. C'est une fleur qui sèche, qui va d'ailleurs représenter très souvent dans le moment de la germination, le moment où elle tombe véritablement, ça sèche. C'est une nature morte aux oignons, toute banale là aussi, rien de plus banal que des oignons. Il s'intéresse véritablement à cette banalité, donc il essaie de faire ressortir la force expressive de la nature morte aux oignons. C'est un tableau qu'il peint après s'être coupé l'oreille, et c'est un tableau qui fonctionne pour lui comme une sorte de tableau de soin, où il représente sur une petite table des oignons, avec une lettre que son frère Théo lui a envoyée, ce qui lui permet d'être signé et de dater l'œuvre, et un manuel de santé qui lui a été conseillé par le docteur Ray pour pouvoir, avec notamment des recettes de camphre, pour pouvoir apaiser sa douleur. Et donc sur cette petite table sont présentés des objets de sa vie quotidienne, une bouteille de vin, une pipe, etc. Mais c'est aussi une façon pour lui de rendre compte de sa situation, c'est-à-dire que les oignons, c'est évidemment aussi ce qui fait pleurer quand on les épluche. C'est-à-dire que là, il y a une façon pour lui très délicate, finalement, très touchante, de rendre compte de la douleur et en même temps de montrer sa capacité par la peinture à se soigner. C'est-à-dire que pour lui, l'acte de peindre est un acte de soin qui participe de sa santé. C'est un élément qui me semble très important de souligner, parce qu'on a souvent tendance à considérer que Van Gogh est un peintre doloriste, un peintre de l'oreille coupée, un peintre de la... Voilà. Et en fait, lorsqu'on regarde sa correspondance, d'abord, il ne peint jamais lorsqu'il a des crises. C'est-à-dire que les crises interrompent véritablement sa pratique. Et dès qu'il a la possibilité physique de reprendre les pinceaux, sa pratique de peintre, c'est une pratique qui lui consiste à retrouver de la vie, à réinjecter de la vie, du bonheur, de la joie de vivre. Je renvoie évidemment au roman de Zola qu'il a lu très tôt, un an après sa publication, en 84 dans mes souvenirs. Et c'est vraiment cette idée d'une peinture qui va l'accompagner dans sa vie, qui va faire partie de sa vie. C'est la raison pour laquelle je ne serais pas forcément tout à fait en accord avec ce qui a été dit lundi sur l'idée du rapport entre vie et œuvre chez Van Gogh, parce que je pense que chez Van Gogh, sa vie est intrinsèquement le sujet de son œuvre.
Et en particulier, pardonnez-moi,
je vous en prie,
au moment du Borinage, quand toute sa fibre sociale finalement ressort dans ses tableaux.
Totalement. Je dirais même une fibre socialisante, si l'on regarde les lectures ses lectures, ses fréquentations, lorsqu'il sera dans le cercle de Pissarro à Paris, où les anarchistes sont assez nombreux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette fibre socialisante. Il cite Multatuli, ce grand écrivain néerlandais qui va dénoncer dans Max Havelaar les conditions de vie des esclaves en Indonésie. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse. Bon, Dickens, c'est aussi un personnage central auquel il va s'identifier, sur lequel il va broder toute une série de tableaux et de dessins. Donc il y a aussi cet aspect d'engagement. Alors c'est vrai qu'on a tendance à... On se dit que Van Gogh, c'est pas forcément le modèle par excellence de l'artiste engagé, mais il me semble que dans son œuvre, il est extrêmement engagé, engagé au sens littéral, puisqu'il s'engage dans ses œuvres, il devient lui-même finalement un morceau de ses œuvres, et puis en même temps, ses œuvres, sans être des œuvres de dénonciation, elles, simplement par le fait qu'elles exhibe les conditions de misère de ces paysans ou des ouvriers du Borinage, c'est une façon pour lui simplement déjà de faire acte d'engagement, je dirais, au sens presque politique du terme.
Une autre chose que j'ai vue lors de cette excursion, c'est les villages de tisserands. Les charbonniers et les tisserands sont encore une race à part quelque peu des autres travailleurs et artisans. Et je me sens pour eux une grande sympathie. Et me compterai heureux si un jour je pouvais les dessiner, en sorte que ces types encore inédits, ou presque inédits, fussent mis au jour, l'homme du fond de l'abîme, des profondices, c'est le charbonnier. L'autre a l'air rêveur, presque songeur, presque somnambule, c'est le tisserand. Voici à peu près 2 ans déjà que je vis avec eux, et j'ai appris à connaître quelque peu leur caractère original, du moins celui des charbonniers principalement. Et de plus en plus, je trouve quelque chose de touchant et de navrant même dans ces pauvres et obscurs ouvriers, les derniers de tous pour ainsi dire, et les plus méprisés, qu'on se représente ordinairement par l'effet d'une imagination vive peut-être, mais très fausse et injuste, comme une race de malfaiteurs et de brigands. Des malfaiteurs, des ivrognes, des brigands, il y en a ici comme ailleurs, mais tel n'est pas du tout le véritable type.
La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cette lettre de Van Gogh adressée depuis QM à son frère en août 1880 et qui dit bien à la fois la fibre sociale dont on parlait avec vous Yann Blanc à l'instant et puis la grande empathie de Van Gogh pour ses classes laborieuses. C'est un peu ça le sublime de l'ordinaire qu'on retrouve aussi dans certains de ses tableaux, notamment les mangeurs de pommes de terre. Alors on a dit qu'on allait parler aujourd'hui avec vous Yann Blanc de Dieu, de la foi et du dessin, et on en parle, mais on en parle un petit peu en creux depuis le début de cette émission. Comment est-ce que finalement, par exemple, ce moment du borinage, ce moment social, voire socialiste que vous décriviez à l'instant, se connecte-t-il avec la foi, la religiosité chez Van Gogh ?
C'est difficile de le dire parce que c'est un mouvement progressif, mais disons le mouvement des idées de Van Gogh est un mouvement d'abandon progressif, d'abord de l'idéal des institutions religieuses. Il ne croit plus au pasteur, il ne croit plus à l'Église réformée.
C'est le pharisianisme qui le dégoûte au fond ?
Oui, dans un premier temps, mais aussi l'image qu'il a auprès de ses pharisiens, c'est-à-dire l'image précisément d'un athée. Donc il se voit en miroir, il ne supporte pas cette image, parce qu'il la considère d'abord probablement fausse, mais aussi parce qu'elle était extrêmement stigmatisante. D'aucuns diraient que c'est une des formes possibles du calvinisme que de rejeter l'Église, que toute forme de religion. Finalement, le protestantisme est aussi de cela, donc d'une certaine façon, ça n'est pas très original. Mais progressivement, il va finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, endosser cette étiquette d'athée, l'assumer, ce qui ne veut pas dire évidemment que Dieu ne perd sa place, si vous voulez, dans son imaginaire, dans sa culture, etc. Ce n'est pas un agnostique.
C'est un autre Dieu.
Voilà, c'est un autre Dieu, ou c'est un Dieu contre lequel il se pose. De ce point de vue, dans le livre que vous avez cité, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je fais référence à un contemporain, un strict contemporain qui a un parcours assez similaire finalement, qui est Nietzsche, qui est lui aussi fils de pasteur et qui lui aussi a une santé mentale un peu fragile. Il mourra 10 ans après Van Gogh. Et lui aussi va essayer de poser Dieu comme un problème. Et je pense que pour Van Gogh, Dieu est un problème. Être athée ne signifie pas nécessairement considérer que Dieu n'existe pas, mais tenter de le nier, tenter de le combattre, tenter de lutter avec lui. Dans un premier temps, cette lutte passe par une lutte contre les pasteurs, contre sa famille également. Je rappelle qu'au moment où il finit par se consacrer à l'art, son père tente de le faire interner. Donc il y a vraiment ici une lutte qui est intestine, une lutte familiale. Et puis ensuite, progressivement, il va tenter de sortir de ce qu'il appelle les bondieuseries, c'est-à-dire au fond toutes les valeurs associées à la religion, y compris lorsqu'à la fin de sa vie, en 1889-1888, il va commencer à peindre pour la première fois des sujets religieux. Parce que ça aussi, c'est une contradiction étonnante. C'est-à-dire que si Van Gogh avait été à ce point un peintre croyant, on aurait du mal à comprendre pourquoi il ne peint quasiment jamais de sujets religieux, sauf à la fin de sa vie, où il va représenter à plusieurs reprises d'après des modèles de Delacroix ou de Rembrandt, des sujets associés à la fois à la question de la foi, à la question de la souffrance et à la question du soin, c'est-à-dire la Pietà d'après Delacroix, la parabole du bon samaritain et la résurrection de Lazare. C'est 3 tableaux intéressants parce que ce sont 3 tableaux qui tournent autour de la souffrance, autour du Christ et également autour du soin finalement, hein, résurrection, etc. Et dans ces tableaux, ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit ces tableaux qui ont des sujets religieux, mais à chaque fois en essayant de les ramener à la réalité. C'est-à-dire que dans la Pietà d'après Delacroix par exemple, même si les commentateurs ont souvent associé le Christ à Van Gogh parce qu'il donne une petite barbe rousse au Christ, dans ses lettres, il dit qu'il s'identifie aussi à la Vierge. Et il dit que cette Vierge a des bonnes mains d'ouvrière. Donc finalement, il fait retour dans ses tableaux à son expérience au sein du Brunage, où il fait finalement des figures de ces femmes ouvrières, de ces glaneuses, de ces ouvriers ou de ces tisserands. Il en fait finalement des figures christiques ou des figures mariales. C'est là qu'il trouve véritablement la sainteté. Une sainteté qui n'est pas, j'irais, dans un au-delà, mais qui est ici-bas.
Oui, parce qu'on a beaucoup dit, Yann Blanc, que son art, même s'il n'avait pas de représentation religieuse à proprement parler, était mystique, quand par exemple il peignait des semeurs, des oliviers, la lune, les étoiles. Est-ce que vous adhérez à cette vision des choses, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué quand même que cela?
Alors, je dirais que c'est compliqué. C'est difficile de retenir une seule interprétation. Donc, je n'oserais pas dire que je suis en total désaccord. D'autant qu'on a considéré, à mon avis, de façon un peu excessive, que dans la pensée calviniste, la nature était un espace qui tentait par la présence de Dieu. C'est beaucoup plus compliqué. Et je ne suis pas certain que ça ne soit d'ailleurs que le seul privilège de la pensée calviniste. Mais en dehors de cela, ce qui est encore intéressant, c'est de revenir aux sources et d'essayer d'étudier très précisément ce que Van Gogh dit de ses tableaux. Prenons le cas de ces semeurs qu'il peint à Arles autour de 1888-89, on voit dans certains de ces semeurs le disque solaire construire une sorte de nimbe autour de la figure du semeur. Je ne sais pas si vous avez en tête ces tableaux, où on se dit évidemment, bah là on a un saint, c'est-à-dire que ce semeur est un saint. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans plusieurs de ses lettres, il dit qu'il faut remplacer les anciennes auréoles, les anciens nimbes, par d'autres éléments, dont le soleil. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il essaie non pas de refabriquer des nimbes, j'irais, profanes, mais créer une autre forme de valeur qui passe par le travail. Il insiste beaucoup sur cette idée. Il s'identifie à ses semeurs, à ses tisserands, à ses ouvriers, à ses glaneuses, à travers la notion de travail. C'est-à-dire que pour lui, il y a une analogie entre le travail par lequel le semeur va en quelque sorte entrer en communication avec la terre, se confronter à la dureté du travail, à une terre qui n'est pas forcément faite pour lui, qui résiste à sa culture. Il y a d'ailleurs dans un de ses dessins sa représentation en paysan herçant le champ, donc avec cette idée de cette résistance que la nature oppose à l'artiste, et le travail même de l'artiste qui lui aussi doit pouvoir lutter contre la nature, ou lutter avec la nature, cette nature qui lui résiste. On sait d'ailleurs, c'est une anecdote assez connue, mais c'est une anecdote assez significative, qu'il va tenter de peindre dans la nature, y compris par temps de Mistral. Les personnes qui vivent dans le sud de la France savent ce que c'est que le Mistral fort, c'est quasiment impossible de le faire, donc il plante son chevalet dans les champs, donc il essaie véritablement d'essayer d'entrer en résistance avec cette nature, et au fond, il s'identifie à ces figures, j'allais dire presque saintes, de ses ouvriers, de ses tisserands, etc., parce qu'il y voit une analogie entre son travail d'artiste et la vie de ces personnes.
J'ai un besoin terrible, dirais-je le mot, de religion. Alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. Victor Hugo dit « Dieu est un phare à éclipse ». Et alors, certes maintenant, nous passons par cette éclipse. J'ai une lucidité terrible par moment lorsque la nature est si belle. Et alors je ne me sens plus. Et le tableau me vient comme dans un rêve. Je viens de peindre un portrait de moi. J'ai pour la deuxième fois gratté une étude d'un Christ avec l'ange dans le jardin des Oliviers. Je sais bien que je t'ai déjà écrit hier. Mon grand chagrin est que tu ne puisses pas voir ce que je vois ici. On finira par en avoir assez du cynisme, du scepticisme, de la blague, et on voudra vivre plus musicalement. Encore mieux vaut pressentir cela, au lieu de ne voir dans l'avenir absolument rien que les catastrophes, qui ne manqueront pourtant pas de tomber.
La figure du Christ est-elle une inspiration pour Van Gogh, c'est-à-dire cette figure qui se donne, qui vit au milieu finalement de ceux auprès de qui il prêche? Est-ce qu'il peut y avoir une identification selon vous au Christ chez Van Gogh, même lointaine? Qu'en pensez-vous, Yann Blanc?
C'est compliqué parce que Disons, on voit très bien dans son parcours intellectuel et spirituel l'importance du modèle christique, notamment dans un texte assez fameux qui a été cité par Wouter van de Ven, qui est l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, qui fait du Christ un modèle à suivre. Et donc il faut en quelque sorte calquer, modeler sa vie sur celle du Christ.
Il dit que le Christ est un artiste hein, quand même.
Ouais, Christ est un artiste. Bon, de cette manière, il a fait l'œuvre des œuvres, en quelque sorte, en se sacrifiant et en ressuscitant. Mais disons que c'est une figure ambiguë pour lui, parce que c'est à la fois la figure de la résurrection et la figure de la passion. C'est-à-dire que Van Gogh, très clairement, rejette la souffrance, rejette la douleur. Dans une de ses lettres, il dit qu'il ne désire pas une carrière de martyr. Donc, il est parfaitement clair là-dessus. Hein. Il désire autre chose que l'héroïsme. Il dit qu'il admire cela chez les autres. Je pense notamment chez Gauguin qui aime l'héroïsme et qui aime se montrer lui aussi en Christ. Mais je pense que Gauguin vraiment s'identifie à la figure du Christ, et un Christ qui, d'une certaine manière, est toujours victorieux, de cette façon. Alors que chez Van Gogh, bah, ce Christ, c'est à la fois la figure de la douleur et la figure de la victoire, la figure de celui qui souffre et la figure de celui qui se soigne et qui est soigné par la Vierge dans la Pietà. Donc, je dirais, difficile de penser qu'il s'agit d'une identification, d'autant que, dans certains de ses tableaux, le Christ ne l'intéresse pas du tout. Je pense notamment à la Résurrection de Lazare, qui est un tableau qu'il réalise après une estampe de Rembrandt. Et dans ce tableau, c'est très frappant parce qu'il supprime la figure du Christ. Hein, vous avez la figure du Christ à gauche qui se lève, qui a les mains levées et qui donc fait lever Lazare qui est entouré de ses deux sœurs. Et il recadre le tableau hein, par rapport à l'estampe en supprimant la figure du Christ. Donc ce qui l'intéresse dans ce tableau, ça n'est pas le Christ. C'est la figure de Lazare qui est la figure du ressuscité. Et ce sont aussi les deux figures des deux sœurs dont il découvre dans la vie du Christ de Renan, la vie de Jésus de Renan, qu'elles sont en quelque sorte des folles de Dieu. Hein, c'est l'analyse de Renan. En fait, la résurrection n'a pas été une vraie résurrection, etc. Donc là, on voit aussi que le Christ n'est pas la seule figure auquel il s'attache, et s'attache assez souvent à des figures féminines également. Donc je dirais que Van Gogh est très fort pour s'identifier, mais le Christ n'est pas la seule figure à laquelle il s'attache dans ses tableaux ou dans ses lettres.
Et on va continuer de parler de tout cela avec vous, Yann Blanc. Vous restez en ligne depuis Genève, durant la chronique que va nous proposer aujourd'hui Aliette Armel.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Aliette.
Bonjour Mathieu.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes une habituée de cette carte blanche du jeudi, critique littéraire, romancière. Vous venez nous parler aujourd'hui de la correspondance de Van Gogh, ou plutôt de comment elle a été éditée.
Oui, car depuis 2009, ceux qui s'intéressent à Vincent Van Gogh bénéficient d'un outil exceptionnel, qui est aussi un magnifique objet. Un coffret de 6 volumes reliés, contenant sur 2180 pages l'édition critique de la totalité de la correspondance de Vincent Van Gogh, classée par ordre chronologique et illustrée par 4300 reproductions d'œuvres. Elles sont mises en relation avec les lettres où elles sont mentionnées, peintures, dessins, croquis réalisés par Van Gogh lui-même, mais aussi par les artistes auxquels il se réfère. Son métier se forge à travers un dialogue permanent avec la peinture du passé et du présent. Sa réflexion est nourrie par ses lectures, car l'amour des livres, écrit-il, est aussi sacré que celui de Rembrandt, et même, je pense, que les deux se complètent. Il y a du Rembrandt dans Shakespeare, du Corrège ou du Sarto en Michelet et du Delacroix dans Victor Hugo. Les 819 lettres de la main de Van Gogh sont connues actuellement et s'y ajoute une centaine de lettres qu'il a reçues et elles constituent donc un corpus épistolaire où se déploie sa vision du monde. Elle se construit au fil d'un combat pour arracher à la peinture ce qu'il cherche à lui faire exprimer à travers la reproduction d'objets du quotidien et de phénomènes naturels. Son principal correspondant, 651 lettres sur 819, est son jeune frère Théo, le confident qui comprend ses tourments intérieurs, le marchand qui croit en la valeur de son travail, le soutien financier qui envoie les billets de 50 ou 100 francs, les toiles et les tubes de couleur indispensables à la survie. Ces lettres sont connues et utilisées depuis le début du siècle dernier, mais à travers des parutions disparates, avec des coupes éludant les difficultés familiales, des réécritures effaçant le caractère brut du style et sa spécificité, liée à l'emploi de plusieurs langues. Vincent Van Gogh écrit en effet tour à tour en néerlandais, en anglais et en français. Le dernier tiers des lettres à Théo, élevé pourtant comme Vincent en néerlandais, est rédigé en français. C'est une écriture spontanée, signe de la totale adaptation de Vincent à cette langue dès qu'il s'installe à Paris. Elle demeure néanmoins une langue d'exil. L'édition exhaustive de 2009 offre ce qui n'avait jamais été possible jusque-là hors des cabinets d'archives aux accès très limités. La visualisation et la lecture des manuscrits. L'édition reproduit en effet l'intégralité des lettres en fac-similé. Par ailleurs, elle rénove l'ensemble de l'appareil critique, restitution des dates, établissement d'une version définitive des textes et de leur traduction, annotation des lettres et des reproductions. Tout a été passé au crible d'un travail scientifique minutieux mené pendant 15 ans sous l'égide du musée Van Gogh d'Amsterdam et de l'Institut Huygens de La Haye et validé par un collectif de chercheurs dirigé par Leo Janssen, Hans Leuthen et Nicke Becker. Le sixième volume est entièrement dédié aux références de cet appareil critique, généalogie, glossaire, cartes et plans, chronologie, tableaux de concordance, index, bibliographie. C'est Actes Sud qui est l'éditeur de la version française et les lettres de Van Gogh en néerlandais et en anglais y ont été retraduites en français par Marnix Vincent et Marie-Françoise Dispa. Mais malheureusement, il n'existe pas de version française de l'autre pan totalement novateur de cette édition, le site internet gratuit vangoghletters.org, véritable modèle du genre. Servi par une interface élégant et parfaitement intuitif, il offre de multiples possibilités de recherche par nom de personne ou de lieu, par date, par correspondant, par titre d'œuvre. Chaque lettre peut être visualisée sous divers angles, accessible à travers des onglets. Texte original, texte découpé par ligne selon celle du manuscrit, fac-similé du manuscrit, traduction du texte en anglais, notes et reproduction des œuvres d'art citées. Tout ce qui se trouve dans le livre est accessible gratuitement en ligne, enrichi par les facultés complémentaires qu'offrent les logiciels d'analyse de données. Mais pour l'utiliser, il faut maîtriser l'anglais, langue de l'interface, des traductions et de l'appareil critique. L'amateur français rétif aux langues anglo-saxonnes pourra néanmoins, à travers les 6 volumes publiés par Actes Sud, confronter le mythe Vincent Van Gogh que chacun construit en soi à la réalité scientifiquement établie des lettres, en se laissant porter par le plaisir d'une mise en page élégante et d'une illustration somptueuse, rendant justice au peintre visionnaire.
Voilà comment revenir aux sources. Merci beaucoup, Aliette Armel. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui une dernière fois de Van Gogh avec l'historien de l'art Yann Blanc.
C'est drôle qu'un de ces soirs-ci à Montmajour, j'ai vu un soleil couchant rouge qui envoyait des rayons dans les troncs et feuillages de pins enracinés dans un amas de rochers, colorant d'orange et feu les troncs et les feuillages, tandis que d'autres pins sur des plans plus reculés se dessinaient bleus de Prusse sur un ciel bleu-vert tendre, céruléen. C'est donc l'effet de ce Claude Monet. C'était superbe. Et le sable blanc et les gisements de rochers blancs sous les arbres prenaient des teintes bleues. Ce que je voudrais faire, c'est le panorama dont tu as les premiers dessins. C'est d'un large, et puis ça ne s'en va pas dans le gris, cela reste vert, jusque dans la dernière ligne. Bleu, celle-là, la rangée de collines.
It's when you talk loud, don't want to put you down, if you're all mine now.
Lecture d'une lettre de 1888 interprétée ici par Louise Atkin. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec vous, Yann Blanc. On a parlé du ni Dieu ni maître. On a parlé du ni Dieu pour l'instant. Parlons un peu du ni maître. Est-ce que Van Gogh est un peintre de la table rase? Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez quand vous dites qu'il n'a pas de maître en peinture? Ça nous semble difficile à croire.
Non, c'est une expression un peu radicale probablement. Plus exactement, c'est une expression qui est tendancielle, c'est-à-dire que je pense qu'au fur et à mesure de la carrière et du parcours de Van Gogh, il a cherché à se détacher d'une forme de servitude à l'égard de ses maîtres. Il les a choisis de façon extrêmement attentive, passionnée. Mais ce qu'il a cherché à faire, c'est toujours essayer de restituer finalement ce qu'il voit à travers ses propres yeux. On l'a vu à l'instant dans l'extrait qui a été récité. On voit bien qu'il voit la nature comme un tableau. Il la décrit à travers des pigments, il la décrit à travers des formes, il la décrit quasiment en anticipant la façon dont il pourrait l'exécuter. Donc, et là, il cite Monet comme une manière pour lui de représenter tel ou tel aspect. Monet devient au fond l'allégorie d'une technique. Et cette technique, elle est centrale pour lui, et il découvre l'impressionnisme à Paris, il y a Monticelli, il y a Monet, il y a Seurat, il y a Signac, etc. Mais à chaque fois, ce sont des instruments ou des outils pour lui permettre de voir et de faire voir la nature à travers ses propres yeux. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, il est à la fois classique et moderne. Il est classique dans la mesure où, comme tous les classiques, il s'appuie sur l'imitation des maîtres pour construire sa propre manière, son propre style. Et en même temps, il est moderne parce qu'il y a une volonté chez lui, assez souvent affirmée dans ses lettres, de destruction aussi de ses modèles, et de mise à distance de ses modèles, et de recherche finalement d'une étude directe de la nature, qui n'a guère de sens finalement pour les maîtres anciens qui considèrent que la représentation de la nature doit toujours se faire à travers un filtre, un modèle.
Donc il est une charnière entre deux courants ?
Alors, de courant, je ne sais pas, mais en tout cas, sans doute dans l'histoire de l'art, il fait partie de ces artistes qui accompagnent un nouveau moment où finalement le réel, plus que la nature peut-être, devient un sujet central. Il faut savoir que Van Gogh, par exemple, peint beaucoup d'après la photographie. Et c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, il va s'appuyer sur un autre regard que lui pour ensuite transformer cette photographie en quelque chose qui lui est propre. Et ça peut être d'ailleurs, et c'est là que ça devient vertigineux, des photographies d'œuvres. À la fin de sa vie, il en réalise plusieurs variations autour de photographies de tableaux de Millet, par exemple.
Pourquoi vertigineux ?
Mais vertigineux parce que là, on est face à une photographie qui est une reproduction d'une reproduction, ou plutôt la reproduction d'une imitation de la nature. Donc on est ici face à une sorte de série de poupées russes. À l'intérieur de laquelle Van Gogh essaie de retrouver sa propre voix, son propre regard. Mais il y a un exemple assez frappant de cette manière dont il essaie de restituer un regard différent sur la nature, c'est la représentation de la nuit. Dans plusieurs lettres, il le dit très clairement, je ne suis pas le premier à peindre la nuit. Il le sait d'autant plus que les peintres hollandais du XVIIe siècle s'en sont fait une spécialité, notamment un artiste qui s'appelle Art van den Heer, qu'il connaît très bien, dont la spécialité, qui peint presque toute sa carrière, des nuits. Bon. Mais il dit qu'il peint des nuits en atelier. Et c'est vrai, on peint des paysages du XVIIe siècle en atelier, on peint jamais dans la nature, on peint jamais en plein air. Et donc, ce qu'il veut, c'est refaire ce qu'a fait van den Heer, mais cette fois-ci, devant le motif. Et donc, il va peindre de nuit, ce qui est un peu, en un certain sens, une absurdité, puisque si vous peignez la nuit, vous voyez moins bien les choses. Et donc là, il le dit, peut-être que les bleus deviennent verts sur ma palette, peut-être que je vois moins bien les choses, mais je les vois vraiment, je les vois directement. Donc, il y a chez lui cette volonté, finalement, d'essayer de faire un pas supplémentaire par rapport au maître qu'il admire. Mais cette admiration, on le voit, ne signifie pas une servitude ou un esclavage. Il cherche vraiment à essayer de dépasser ses maîtres en essayant d'imposer un langage différent. Donc, une forme de rupture, assez clairement.
Donc, c'est un peintre, on le voit bien, qui est très singulier, qui est assez inclassable. Diriez-vous qu'il a fait école et qu'après lui, au fond, la peinture en a été totalement bouleversée, et qui seraient donc ces peintres qui l'ont passionnément regardé ?
J'ai toujours, en tant qu'historien de l'art, j'ai toujours des problèmes avec la singularité, parce que on pourrait aussi tenir un discours inverse en disant que Van Gogh est un artiste de la synthèse, un artiste qui inclut des éléments réalistes, des éléments romantiques, des éléments impressionnistes, des éléments néo-impressionnistes, des éléments associés à certains artistes spécifiques comme les maîtres hollandais, comme Frans Hals pour la touche ou Rembrandt, ou Monticelli pour les natures mortes florales. Donc on pourrait aussi en faire un artiste de la synthèse, et on le voit d'ailleurs, on peut le voir quasi œuvre après œuvre. Dès qu'il découvre un artiste, il l'intègre et on voit au départ comment il est presque un copiste de manière avant progressivement de faire de construire son propre style. Ce qui est certain, c'est que très rapidement, il devient un artiste qui va servir de modèle à des artistes de la fin du 19e, début du 20e siècle, très rapidement. Donc, je pense notamment aux peintres expressionnistes qui vont s'intéresser beaucoup avec lui, ou la génération des Nabis, vont s'intéresser avec lui à la question de la non-naturalisation de la couleur. L'idée selon laquelle il faut exagérer la nature pour la rendre exacte, finalement, ce qui est un paradoxe, mais qui repose précisément sur cette idée selon laquelle on ne représente que la nature à travers un tempérament. Et donc, de ce point de vue, je pense que Van Gogh, peut-être, si l'on voulait procéder à une histoire de l'art qui serait un peu téléologique, idéologique malgré tout, on pourrait en faire d'une certaine manière un précurseur ou un modèle de ces artistes qui essaient de penser différemment le rapport entre la couleur des objets et la couleur de la représentation des objets.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au fauvisme dans cette, cette idée-là ?
Je pense, effectivement.
Je trouve assez étrange que Gauguin me réclame un tableau de tournesol en m'offrant en échange quelques études qu'il a laissées ici. Pour le moment, je garde mes toiles ici. Et catégoriquement, je garde moi mes tournesols en question. Il en a déjà deux. Que cela lui suffise. Cela me fatigue de récapituler tout cela et de calculer et recalculer des choses de ce genre. Toi qui désires savoir comment étaient les choses, as-tu déjà lu le Tartarin tout entier ? Cela t'apprendrait passablement à reconnaître Gauguin. Rien ne nous empêche de voir en lui le petit tigre Bonaparte qui toujours abandonnait les armées dans la dèche. Puis, il est père d'enfants. Puis, il a sa femme et ses enfants dans le Danemark. Et il veut simultanément aller tout à l'autre bout du globe, à la Martinique. C'est effroyable, tout le vice-versa de désir incompatible que cela doit lui occasionner.
Alors parlons un petit peu, si vous le voulez bien, Yann Blanc, du moment Gauguin dans la trajectoire de Van Gogh, grâce à cette lettre qu'on vient d'entendre et qui était lue par Alain Amiel. Vous avez un tout petit peu abordé cette question déjà en début d'émission, mais je voudrais vous faire préciser ce que vous dites de la peinture de Gauguin et de la conception qu'ils peuvent avoir ensemble de ce que ça signifie de peindre. Est-ce que au fond, on est là face à deux peintres qui recherchent dans la même direction? Ou est-ce que leur incompréhension tient justement au fait qu'ils ont des conceptions totalement différentes?
Je pense que c'est assez difficile de répondre à cette question parce que se mêle dans la question du rapport personnel entre les deux hommes et la question du rapport artistique. Je dirais peut-être pour rester au niveau de l'art et de la pratique artistique qu'il est vrai que Gauguin a, je dirais, une approche héroïque de la peinture. Héroïque au sein de une approche au sein de laquelle évidemment il est un protagoniste. En même temps, je pense que Gauguin a parfaitement compris ce que pouvait être la spécificité de l'art de Van Gogh, qui est un art fondé précisément sur ce qu'il appelle le romantisme, c'est-à-dire un éloge de la sensibilité, un éloge de la délicatesse. Et d'ailleurs, il s'y intéressera lui-même puisqu'il va peindre un portrait de Van Gogh peignant les tournesols en décembre 88. Donc on est ici face à un artiste qui est attentif à ce que fait son confrère et son ami. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un tout petit peu les études que les deux artistes font des mêmes motifs, notamment les aliscans, qu'ils les étudient en même temps, il est frappant de voir les points de vue différents. C'est-à-dire que chez Gauguin, vous avez l'allée des aliscans, donc à Arles, qui donne lieu vers la perspective, vers l'église, qui est au fond de la perspective. Et donc, il y a trois femmes qu'on voit au deuxième plan, et qu'on peut tout à fait assimiler à l'iconographie traditionnelle des trois vierges, ou des trois maris, visitant la tombe du Christ. Donc, on est dans une perspective finalement assez religieuse, qui insiste sur ce caractère religieux. Alors que Van Gogh, lorsqu'il va représenter l'allée des aliscans, va la représenter avec un point de vue en plongée, donc avec 100 perspectives donnant sur un horizon. Et ce qui va l'intéresser, c'est la structure géométrique de l'allée, mais aussi les figures qui vont la traverser, les tombes gallo-romaines qui s'y trouvent. Et donc avec un regard totalement immergé, presque en zoom, sur une partie de l'allée. Et donc on voit très bien que d'un côté, il y a une vision en perspective, une vision qui donne lieu vers l'église, disons, donc avec une dimension clairement mystique, qui est liée à une question religieuse, ou qui thématise la question religieuse, et on le trouve d'ailleurs dans d'autres œuvres peintes par Gauguin durant cette période arlésienne, tandis que Van Gogh, lui, essaie souvent de décentrer le regard, précisément en effaçant l'église pour se concentrer sur les activités humaines. Et il fait la même chose d'ailleurs lorsqu'il présente les jardins, lorsqu'il présente les rues, il s'intéresse vraiment aux activités humaines et non à une éventuelle dimension sacrée, mystique ou spirituelle.
Ou héroïque, hein, c'est ce mot que vous avez employé tout à l'heure, qui est peut-être pas très, très facile à comprendre, mais disons qu'il y a une modestie peut-être plus grande dans la peinture de Van Gogh, dans l'attitude de Van Gogh.
Oui, ce que j'entendais par héroïque, c'est que Gauguin se donne le beau rôle. Lorsqu'il se représente en Christ, il se représente comme une figure, ce qu'il appelle une figure virile, une figure mâle, une figure forte, puissante. Il y a chez lui véritablement cette affirmation de la puissance. Lorsque Van Gogh se représente, notamment lorsqu'il se coupe l'oreille, il y a deux autoportraits à l'oreille coupée. En fait, ce n'est pas des autoportraits à l'oreille coupée, ce sont des autoportraits à l'oreille bandée, quand on y réfléchit. Ce sont des portraits de convalescence. Il se représente en malade, mais en malade qui guérit. C'est-à-dire qu'il se représente avec le bandeau enveloppé de camphre pour montrer qu'il est en train de cicatriser. Mais évidemment, ce n'est pas une image héroïque, ce n'est pas l'image que promeut Gauguin de lui-même. C'est pour ça qu'à mon sens, les deux artistes ont sans doute eu des difficultés. C'est qu'il y avait vraiment deux modèles différents de pratique artistique et de rapport finalement à la notion de création finalement.
Qu'est-ce que ça veut dire l'autoportrait chez Van Gogh? On sait qu'il y en a beaucoup, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle il en a fait autant. Peut-être tout simplement n'avait-il parfois pas l'argent pour se payer des modèles et donc il se prenait comme modèle, ou est-ce que selon vous il y a quelque chose d'autre dans la recherche la compréhension de qui il est lui-même?
D'abord, je crois qu'il faut inscrire cette série d'autoportraits dans la série d'autres autoportraits d'un grand artiste qu'il admire, qui est Rembrandt. Je pense que chez lui, il y a une volonté de dialoguer finalement à distance avec la figure de Rembrandt et d'essayer lui aussi finalement d'accompagner toute sa carrière avec des représentations de lui-même. Donc il y a déjà cet aspect d'émulation qui est très fort. Puis d'autre part, je pense qu'effectivement, il se prend pour modèle et donc suit, traque en quelque sorte l'évolution du temps, l'amaigrissement progressif. Mais il y a un troisième élément qui est très important pour lui et qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur les rapports entre vie et œuvre, c'est qu'au fond, ces autoportraits, c'est des morceaux de sa vie. C'est-à-dire que c'est pas juste des petites parenthèses au sein desquelles il va se représenter et faire une pause. Ce sont des espaces où il va, en se représentant, chercher à mieux se connaître, voire à changer. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui ne sont pas seulement des miroirs de ce qu'il est, mais ce sont aussi parfois des espaces de projection de ce qu'il veut devenir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'il arrive à Arles, il se rase la barbe et le crâne et se représente, dit-il, en bonze. Et donc, il se transforme physiquement, non seulement dans la réalité, mais aussi dans sa propre représentation. Et donc, il modélise, en quelque sorte, sa vie sur son œuvre. Donc, chez lui, ce rapport entre vie et œuvre est central, et à mon sens, ce serait une erreur de vouloir l'analyser, l'approcher en esthète. Je pense que chez lui, il y a vraiment cette volonté de faire de l'autoportrait l'espace de construction de sa propre vie et de sa propre expérience.
Est-ce qu'on peut dire que Van Gogh était un esthète avec tout le côté négatif justement que ce terme charrie?
Je ne crois pas, parce que l'idée d'esthète voudrait dire qu'il y a finalement une séparation possible entre un art pour le réel et un art pour l'art. Et je pense que s'il y a bien un aspect qui est étranger à la façon dont Van Gogh approche le monde, le réel, c'est l'idée selon laquelle l'art pourrait être détaché de ce réel. Je pense qu'au contraire, une animation est un anti-esthète, au sens où pour lui, l'art est un morceau de la vie.
Et pourtant, les esthètes l'aiment et l'admirent.
Il aime et l'admire, peut-être pour de mauvaises raisons. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaises raisons pour admirer Van Gogh, mais c'est vrai probablement que de faire de Van Gogh un artiste qui faisait au fond des tableaux abstraction faite du réel dans lequel il se trouvait, c'est sans doute probablement une erreur historique.
Comment vous expliquez la popularité justement de Van Gogh dans toutes les classes de la société? Il y a des tableaux de Van Gogh un peu partout, enfin des reproductions des tableaux de Van Gogh un peu chez tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ce peintre-là, est-ce que c'est justement parce que ça n'est pas un esthète, comme vous venez de le dire, Yann Blanc, qui le rend populaire partout?
Là, la question est compliquée parce que il n'est pas certain que la fortune critique de Van Gogh soit strictement attaché aux qualités intrinsèques de son œuvre, aux intentions ou aux stratégies qui auraient pu être les siennes, même si on a vu avec Wouter van de Veen qui a sans doute la volonté de s'inscrire dans une postérité, de construire un capital à la fois d'abord financier, puis artistique, puis symbolique. Et les travaux d'Antalya Nick montrent qu'il y a aussi beaucoup de cette gloire qui tient à une refabrication a posteriori autour précisément de cette notion de singularité. Donc, pour moi, il serait difficile d'avoir un propos unificateur et homogène sur ce succès. Il est probable que Van Gogh a très tôt été institué comme une figure emblématique, je dirais paradigmatique, de cette singularité qui va devenir au XXe siècle l'un des éléments centraux de la construction du mythe de l'artiste. Et je pense que on pourrait tout à fait envisager, si on avait uniquement cette position sociologique, qu'au fond, le succès de Van Gogh est dû pour essentiel aux malentendus qui se sont agrégés autour de sa figure et à la construction de cette singularité post-mortem, si j'ose dire.
C'est un peu l'ironie de l'histoire, quand même. La cote incroyable aussi de Van Gogh, oui, pour cet artiste, oui, non-esthète, on vient de le dire, engagé auprès de la société pour essayer de la rendre meilleure ou plus belle.
Oui. En même temps, on pourrait aussi engager un autre argument qui est, lui, plus proche, disons, des œuvres elles-mêmes, qui est de considérer que, comme Van Gogh a été un modèle pour toute une génération d'artistes, d'une certaine façon, il a été un maître à penser, il a suscité des imitations, et que, d'une certaine façon, toute la génération des artistes, vous avez parlé des fauvistes, on peut parler des nabis, des expressionnistes, des fois des post-expressionnistes, tous ces artistes-là, finalement, ont déclaré, je dirais, dans leurs œuvres, leur dette à l'égard de Van Gogh, si bien que Van Gogh devient une figure centrale d'une partie de l'art moderne, disons, avant l'installation l'avènement de l'abstraction.
Et vous, alors, Yann Blanc, j'ai envie de vous interroger personnellement, puisqu'on arrive à la fin de la dernière émission de cette série sur Van Gogh. Qu'est-ce qui vous rattache émotionnellement à ce peintre? Vous avez quand même beaucoup travaillé sur lui. Vous avez produit ce très beau livre « Ni Dieu ni Maître » chez Citadel et Masno, qui est aussi un parcours dans toute l'œuvre, un parcours chronologique. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaché à lui? Puisque j'imagine que vous vous sentez attaché à lui.
Je dirais que ce livre m'a permis de revenir sur des préjugés que j'avais sur précisément les rapports entre art et vie. Si vous travaillez, comme c'est mon cas, pour l'essentiel sur des artistes de l'Ancien Régime, la question de la vie de l'artiste est utile, mais souvent pas nécessaire pour comprendre leurs œuvres. Il est inutile de savoir quels sont les événements qui ont lieu dans la vie quotidienne de Charles Le Brun pour comprendre les tableaux qu'il peint pour le roi. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu tendance au départ à approcher l'œuvre de Van Gogh en essayant de faire abstraction de sa vie. Et vous comprenez très vite que ça a été un échec cuisant. Et je me suis rendu compte donc qu'il y avait bien des artistes, au 19e siècle certainement, pour lesquels ses rapports étaient vraiment des rapports de concaténation, si l'on veut. Et donc, moi, ça m'a vraiment fasciné parce que ça m'a amené à repenser une façon que j'avais d'approcher l'œuvre des artistes, où la vie, d'une certaine façon, était une source d'information, mais pas nécessairement une source d'explication des œuvres et d'interprétation des œuvres. Si bien que désormais, j'accorde, lorsque je reviens à des œuvres plus anciennes, qui est mon domaine de spécialité principale, ça m'amène sans doute à relativiser cette coupure entre art et vie et à essayer de penser davantage la façon dont l'art pouvait s'imbriquer dans la vie des artistes. Ce qui est fascinant chez Van Gogh, par ailleurs, c'est l'extraordinaire honnêteté, cette lucidité qu'il avait dans ses lettres, lorsqu'on les lit du début jusqu'à la fin. Et donc, on peut sentir véritablement dans sa langue, et j'allais dire d'abord en français, parce que c'est une langue qu'il maîtrise mal, donc on a l'impression de l'entendre parler lorsqu'il écrit. On sent véritablement cette souffrance et en même temps cette volonté de vivre, cette joie de vivre qu'on trouve dans de très nombreuses lettres. Il ne faudrait pas conserver de son image quelque chose qui serait purement doloriste. Il y a beaucoup, beaucoup de joie, d'humour dans ses lettres, et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans ses œuvres.
Je vous remercie beaucoup, Yann Blanc, d'être venu nous parler aujourd'hui de Van Gogh sous l'angle notamment de la religion, mais aussi de cette manière très personnelle, comme vous l'avez fait durant les dernières minutes de cette émission. Je rappelle encore une fois votre livre Van Gogh, ni Dieu ni Maître, paru en 2017 chez Citadel et Masno. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Didier Pinault et Ludovic Auger. Demain, c'est Manu Farine qui officiera dès 15h. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une série consacrée à l'écrivain français Alain Fournier. Dans un instant, les sciences.